On parlait du quart de ton, mais vous avez été aussi, par votre culture, la rencontre avec les micro-intervalles.
Tout à fait, tout à fait. Mais le problème du micro-intervalle, c'est pas le quart de temps. Il n'y a pas de quart de temps en musique. Il y a des trois quarts de temps, un peu plus haut, un peu plus bas, des choses comme ça. Mais le problème de quart de temps, on l'a considéré en Occident, qui est toujours arbitraire. C'est-à-dire, on est en train de créer des modèles, on veut créer des modèles à partir de chromatisme, et donc on va pousser le chromatisme au lieu de diviser, pardon, on divise par 4, et pourquoi pas. Mais même si on divise par 4, si on fait appel à la méthodologie sérielle, il ne peut pas agir si on considère seulement le phénomène chromatique. Mais si on considère la série, cette méthodologie de contrôle des intervalles, là, elle peut devenir efficace et agissante. Et en réalité, ça renvoie à quoi ? À la modalité. C'est-à-dire, on est en train d'inventer des modes nouveaux avec leur rapport de force et leur palier, ce qui est l'équivalent dans le mode majeur ou mineur de la tonique dominante sous dominante. Et donc, il faut avoir, exactement comme dans la série d'ailleurs, regardez Moïse et Aaron, ça fonctionne par une série où il y a tous les intervalles, c'est pas ça qui détermine. Ce qui détermine, c'est que Schoenberg crée des rapports de force harmoniques qui font des paliers que l'œuvre avance et qui crée sa dynamique. Donc il faut, tout en créant des modes nouveaux, avec quart de temps ou avec sans quart de temps, c'est-à-dire ce qu'on veut, mais il faut être conscient de cette hiérarchie intervallique pour pouvoir créer des pôles d'attraction dans cette modalité. Mais ça, c'est le plan théorique. Mais en réalité, l'auditeur, il s'en fout de ça, et moi aussi. Une fois que j'ai fait ma cuisine, je l'oublie. Parce que l'œuvre n'est pas une démonstration scientifique, c'est un élan amoureux, c'est un élan passionnel, supporté par une conscience inconsciente scientifique.
Et la notion d'humélisme, c'est aussi dans votre tradition, dans votre culture. Est-ce que ça a joué aussi dans votre écriture musicale? Est-ce qu'il y a eu une transposition, une adaptation? Ou est-ce que c'était un phénomène, peut-être même de rejet, pourquoi pas?
Non, au départ, l'humélisme ne faisait pas partie de mon travail. Parce que je viens au départ de la musique de haute classe où il n'y a pas d'humélisme. Et puis, finalement, l'humélisme vient dans ma musique petit à petit. Il est là, dans ce que vous allez écouter ce soir, il y est. Mais il y est en tant, comment dire, qu'élément de variation. Et pas plus. Le milice, pour moi, il faut qu'il ait un fondement. Et le fondement, c'est la variation mélodique. Et dans ce sens, oui, il est tout à fait important. Mais s'il n'est qu'ornement, il est très peu intéressant pour moi. Je ne dis pas là une vérité, hein, je dis une position.
Mais c'est un petit peu aussi une réflexion, un peu à la manière d'Edouard Saïd, de contester un peu cette idée d'orientalisme qui peut apparaître, effectivement, comme vous le dites, le danger, c'est l'orientalisme dans la manière d'utiliser le mélisme.
Bah oui, ça c'est les clichés. Les clichés parce que ça fait le marché persan. On peut le faire, on est en droit de le faire, mais moi c'est pas mon lieu.
Comment on fait quand on se retrouve à la rencontre de deux civilisations, deux cultures? Est-ce qu'on cherche une synthèse? Quel est le mode d'appropriation ou peut-être d'expropriation?
Alors au départ, je guettais la synthèse, je cherchais la synthèse et je la voulais. Et puis, chemin faisant, tout acte volontaire me semblait suspect dans l'écriture. Ça ne veut pas dire qu'on écrit dans l'ignorance. Mais moi, j'écris de plus en plus en dehors du vouloir de l'écriture. J'écris dans l'ignorance de ce que j'écris. C'est-à-dire, je l'apprends en l'écrivant. Et maintenant, je ne suis que cette chose qui a été alimentée par à la fois la musique berbère, la musique paysanne de la plaine au Maroc, les musiques du Moyen-Orient, les musiques des autres que j'ai découvert, les pygmées, le no japonais, la musique hindoue, la musique persane. Je suis aussi le reflet de Debussy, de Ravel. Je suis la fleur d'une racine beethovenienne. Je suis aussi, comment dire, l'enfant légitime ou illégitime des suites de Jean-Sébastien Bach et de la Passion selon Saint-Jean ou Saint-Mathieu que j'ai chanté au Maroc avec, dans le chœur et qui m'a marqué. Tout ça, c'est moi. Et cette chose très complexe, il s'ignore et il est dans l'oubli d'elle-même quand elle écrit.
Qu'est-ce que vous avez choisi avec l'instant donné? Qu'est-ce qui vous a semblé important dans ce projet, puisque c'est votre deuxième concert avec l'instant donné? Donc une belle relation, mais qu'est-ce que vous avez voulu choisir dans ce concert-là?
Ben c'est tout simplement, c'est pas moi qui a choisi la programmation, c'est l'instant donné qui a pris cette œuvre, Voix interdite, à laquelle je tiens beaucoup d'ailleurs, qui était écrite pour Musica, qui l'a créée en 2005, et à laquelle je tiens énormément parce que, comment dire, ça rejoint pour moi un peu la tradition des musiques à la fois de l'Orient, son proche ou son extrême, c'est-à-dire avec peu d'éléments matériels, c'est-à-dire il y a 7 instruments, ça aurait pu être moins. Bon, il me semblait que c'était bien d'avoir ces 7 parce que il représente à la fois avec le marimba le côté percussif et sans être tambourinant, la harpe qui représenterait la lutte qui est avec des possibilités polyphoniques plus importantes, et puis un trio sombre qui est sans violon, contrebasse, violoncelle, alto, face à ce qui est à la fois peut être enraciné dans les traditions orientales qui est la flûte, qui n'est pas forcément un instrument occidental, hein, parce que la littérature occidentale de la flûte est très pauvre. Et puis la clarinette, par contre, c'est l'instrument par excellence occidental. Et donc ce matériau, pour moi, était quelque part à la fois provoquant et à la fois rejoint cette tradition du peu, on fait le plus, hein, de l'Orient. Et pour ça, je tiens beaucoup à cette œuvre. Je tiens beaucoup à cette œuvre pour aussi deux autres raisons, parce que c'est les textes d'Abul Hussein Hallaj qui sont absolument des textes merveilleux. En arabe, je ne voulais pas du tout que ce soit chanté dans une traduction quelconque, parce que cette langue est tellement riche de timbres, riche d'accents, avec ses longues et ses courtes, ça provoque une musique tout à fait extraordinaire. Et puis parce que il fallait bien que je rends hommage à Jean-Sébastien Bach encore, avec une grande pièce pour violoncelle qui fait le centre de cette œuvre. Elle est toujours centrale, la pièce pour Ichou. Ichou aussi rend hommage à toutes les femmes que j'ai connues en Haute-Atlas pendant les nombreuses années que j'ai sillonné cette montagne à la découverte de sa musique et de ses hommes, et aussi à traquer un poisson que j'adore, la truite. Et donc je rends hommage à toutes ces femmes que j'ai rencontrées, à la fois joyeuses, mais dures à l'épreuve, dures à la peine, et qui n'avaient pas de voix audible. Et donc c'est pour ça que toutes les pièces qui ne portent pas l'empreinte de Hallaj portent le prénom d'une de ces femmes. Et c'est pour ça que ça s'appelle Voix interdite, parce que à la fois Hallaj reste quand même une voix à peine tolérée et sinon interdite dans certaines régions du monde arabo-musulman, et puis ces femmes dont la voix est exclue dans la société.
Merci Ahmed Ezzial, merci beaucoup. Merci.